Actu SF, les podcasts.
Si, apparemment, l'éclairage nous dit qu'il est l'heure de commencer. Donc, je voudrais commencer par vous remercier tous d'être parmi nous, aussi nombreux. Je vais tout de suite vous présenter nos intervenants pour cette table ronde géométrique sur le remplacement de la droite par le cercle. Ceux qui étaient déjà avec nous dans cette salle il y a 2 heures connaissent déjà Yannick Gomez, qui travaille au CEA dans une cellule d'innovation sur l'économie circulaire. Donc on est en plein cas dans cette thématique, et qui est aussi le responsable d'un master à l'Université de Montpellier sur la transition écologique et sur l'économie circulaire également. Alors, tout à l'heure, je vous ai sans doute un peu frustré en ne laissant pas Yannick expliquer ce qu'était l'économie circulaire, mais là, aujourd'hui, on va pouvoir rentrer dans le dur. À côté de lui, vous avez Fabien Wellmann, qui est scénariste de bande dessinée, alors bien connu, auteur en particulier d'un best-seller des cours de récréation, qui est la série Seul. Que beaucoup d'entre vous connaissent probablement. Et là, je vais me faire détester par les Bretons pour la prononciation, mais à ses côtés, Céline Guivard, qui est un ingénieur qui a trahi la cause et qui est devenu économiste, qui, si j'ai bien compris, est directeur de recherche à l'École des Ponts, directrice de recherche, pardon, à l'École des Ponts, donc également en économie sur ces questions d'économie circulaire. Et qui, entre autres, et qui a également participé à la rédaction du dernier rapport du GIEC, donc sur les enjeux économiques de l'évolution climatique. Je serais tenté, puisque nous avons deux spécialistes parmi nous, de commencer par une tentative de définition de ce qu'est l'économie circulaire, puisque c'est un terme qui semble presque paradoxal. Yannick, tu veux nous présenter ça en deux mots? Tout à l'heure, tu avais parlé de 7 piliers. Je ne t'avais laissé en placer qu'un.
Alors, qu'est-ce que l'économie circulaire? Donc, je vais redire un peu comme tout à l'heure. Je pense que pour la définir, le mieux, c'est d'expliquer à quoi elle s'oppose. L'économie circulaire, elle s'oppose donc à l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est extraire, produire, jeter. Donc l'économie circulaire, elle part du principe que justement, alors je vais peut-être dès le départ déflorer le thème, mais justement il y a des limites, planétaires, hein, on a 9 grandes limites planétaires, le réchauffement climatique en est une, mais il y a aussi l'acidification des océans, il y a aussi l'érosion de la biodiversité, les cycles du phosphore, de l'azote, donc on a un ensemble de limites planétaires qui sont très bien définies scientifiquement, et qu'on ne devrait pas dépasser. Malheureusement, aujourd'hui, on en a dépassé 6 sur les 9. Donc l'économie linéaire telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est extraire, produire, jeter, elle est incompatible avec ses limites planétaires. L'idée de l'économie circulaire, c'est de dire qu'on doit tout faire pour économiser les matières premières, l'énergie, et rejeter et éviter le maximum les impacts environnementaux, que sont les émissions de CO2, la pollution de l'eau, de l'air, du sol et l'érosion de la biodiversité notamment. Alors comment on y parvient? Avec des piliers, 7 piliers. Le premier pilier, c'est l'approvisionnement responsable, en gros, améliorer l'ensemble des chaînes de valeur de l'industrie, faire en sorte qu'on n'ait pas des choses qui paraissent vertueuses ici, mais qui supposent de la non-vertu ailleurs, par exemple, extraire des mines de manière non environnementale. Ça, c'est le pilier approvisionnement durable. Ensuite, on a un deuxième pilier qui est très important, qui est l'éco-conception. Par exemple, essayer d'optimiser l'ensemble des biens qu'on fabrique. Au CEA, par exemple, on travaille sur des panneaux solaires de nouvelle génération. On essaye de diminuer la quantité d'argent à l'intérieur et d'augmenter à la surface égale l'énergie solaire que vont produire ces panneaux. Ça, c'est le deuxième pilier. Ensuite, il y a un troisième pilier, alors, qui est un pilier plus d'usage. C'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. Alors là, de quoi il s'agit? Il s'agit de mettre en symbiose sur un territoire des acteurs économiques divers pour faire en sorte que les déchets des uns soient les ressources des autres, pour faire en sorte qu'on puisse mutualiser les ressources qui sont présentes sur ce territoire. Alors un exemple, c'est le Kalundborg, le Danemark, là-dessus, qui est l'exemple le plus abouti, mais il y a en France plus de 150 initiatives d'écologie industrielle et territoriale. Quatrième pilier, c'est l'économie de la fonctionnalité. Donc l'économie de la fonctionnalité, c'est de remplacer la vente de produits par du service. Un exemple tout bête, enfin tout bête, au contraire très intelligent. Vous êtes une entreprise qui vend des lampadaires. Au lieu de vendre des lampadaires, vous vendez un niveau d'éclairage. Et ça change tout en fait. Parce que si vous définissez comme vendeur de lampadaires, plus vous vendez du bien, plus vous gagnez de l'argent. Si vous vendez un niveau d'éclairage, ben vous vendez un service et donc peut-être que vous allez vous rendre compte que la mairie qui vous passe commande, son souhait, ce n'est pas forcément d'avoir le plus de lampadaires possible, mais peut-être d'en avoir moins, mais par contre d'avoir les endroits qui doivent être éclairés au bon moment. Cinquième pilier, c'est la consommation responsable, donc tout ce qui est consommation collaborative, pouvoir s'échanger des biens, faire en sorte que les biens ne servent pas à un usage unique, mais puissent servir à plusieurs acteurs. Sixième pilier, c'est l'allongement de la durée d'usage. Donc, allongement de la durée d'usage. Je rappelle que la durée d'usage, ce n'est pas la durée de vie. Un smartphone, ça a une durée de vie bien plus importante que 12 mois. Malheureusement, la durée d'usage, ça se rapproche plus de 12 mois que la durée réelle que ça pourrait avoir. Donc, voilà, c'est ce pilier, allongement de la durée d'usage. Et là, on voit bien l'opposition à l'économie linéaire. Dans l'économie linéaire, c'est l'obsolescence programmée qui prédomine. En circulaire, ça doit être l'allongement de la durée d'usage. Et le dernier pilier, pas le moins important, mais pas non plus le seul pilier. Et c'est souvent à ça, malheureusement, qu'on réduit l'économie circulaire. C'est le recyclage. Le recyclage, donc, c'est un des 7 piliers de l'économie circulaire. Alors, il y a beaucoup d'économie circulaire washing, il ne faut pas se le cacher, où justement, on voudrait nous donner une illusion que seulement avec du recyclage, seulement avec des piliers technologiques, on répond aux problèmes des limites planétaires. Non, l'économie circulaire, c'est à la fois des piliers d'usage basés sur la sobriété, et des piliers technologiques pour essayer d'optimiser au maximum les choses pour rentrer dans le cadre des limites.
Céline, j'espère que tu n'es pas du tout d'accord et qu'on va engager un débat féroce.
En fait, moi, je ne suis pas du tout spécialiste d'économie circulaire, donc ça tombe bien, je ne vais pas parler de ça. Moi, je suis spécialiste du changement climatique, qui est une des limites planétaires. Et je peux finalement vous dire quelques mots sur qu'est-ce qui cause ce changement climatique, quelles sont les solutions. Et on va voir qu'il y a des lignes, ou en tout cas des courbes, et puis quelque part des cercles aussi. Donc le changement climatique, celui qu'on mesure aujourd'hui, qu'on vit, il fait particulièrement doux ces temps-ci en France. On est capable de dire que ça s'est rendu beaucoup plus probable par le changement climatique, le réchauffement du globe. On est à plus 1,1 degré en moyenne sur l'année pour l'ensemble du globe par rapport à l'ère pré-industrielle. Et on est aussi sûr que ce qu'on observe, qui a des effets en cascade, d'extrêmes qui sont plus intenses et plus fréquents, d'extrêmes de chaleur, mais aussi d'extrêmes de précipitations, mais aussi des sécheresses qui sont plus intenses et plus fréquentes. Et l'été qu'on a vécu, c'est vraiment la marque de ce changement climatique. Et puis avec des effets en cascade sur les écosystèmes, sur les rendements agricoles, sur la santé humaine, etc. etc. Et en fait, on est sûr que ce qu'on observe, c'est intégralement dû aux activités humaines, aux émissions de gaz à effet de serre qui s'accumulent dans notre atmosphère. Donc aujourd'hui, les émissions de gaz à effet de serre, elles sont au niveau le plus haut jamais connu de l'humanité, à 59 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an. La concentration de CO2 dans notre atmosphère, le CO2, le dioxyde de carbone, qui est le principal gaz à effet de serre. En fait, il faut remonter de millions d'années en arrière pour retrouver une concentration qui est aussi haute que celle d'aujourd'hui. Et puis, on sait aussi qu'avec chaque fraction de degré supplémentaire, en fait, et qui vient de chaque émissions supplémentaires qui s'accumulent dans notre atmosphère, c'est des extrêmes plus intenses et plus fréquents, c'est des franchissements de seuil de tolérance pour les écosystèmes, pour les humains, c'est des risques pour les infrastructures, pour la sécurité alimentaire, pour l'accès à l'eau, pour la santé humaine, pour la sécurité tout court. Et que la seule façon pour éviter les risques les plus graves et pour stabiliser la situation, c'est d'atteindre zéro émissions nettes de CO2 à l'échelle mondiale, et plus on l'atteindra vite, plus on limitera le réchauffement climatique à un niveau bas. Et donc ce zéro, c'est notre cercle, c'est un point finalement qu'on doit atteindre si on veut arrêter que la situation se dégrade. Donc après, on pourrait aller plus loin sur finalement, c'est quoi les activités humaines qui sont la source de ces émissions de gaz à effet de serre, en fait, c'est un petit peu tout ce qu'on fait, hein, les façons dont on se déplace, dont on se loge, les façons dont on mange, les façons dont on travaille, dont on produit, dont on consomme. En France, par exemple, les émissions qui ont lieu sur le territoire national, il y en a 30% qui vient des transports, et la moitié de ça, c'est les voitures. Les bâtiments, ça représente à peu près 20%, l'industrie à peu près 20%, l'agriculture à peu près 20%. Et puis, aussi, en fait, on connaît des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans le rapport du GIEC auquel j'ai participé, une des choses qu'on a faites, donc avec un peu plus de 270, je crois, scientifiques de partout dans le monde, on a évalué la littérature académique, donc les articles scientifiques, pour en faire une évaluation et une synthèse, pour donner l'état des connaissances. Et une des choses qu'on a faites, c'est dans l'ensemble des secteurs, hein, que ce soit l'énergie, les transports, l'industrie, les bâtiments, etc., de regarder les solutions qui sont déjà disponibles aujourd'hui. Et finalement, si on les prend ensemble, ces solutions-là, elles sont à même de diviser par deux les émissions mondiales d'ici 2030. C'est des solutions qui, pour certaines, reposent sur l'adoption de technologies. On pourra en discuter, mais qui, assez plus largement, en fait, reposent aussi sur des transformations assez radicales des façons dont on produit et dont on consomme, de nos infrastructures, des façons dont on organise nos villes, etc. Et on a tendance à, enfin, selon les secteurs, à les classé finalement en trois grands pôles, les questions de sobriété, on pourra peut-être en reparler, donc là il y a un lien avec un des piliers de l'économie circulaire, il y a les questions d'efficacité, donc faire la même chose mais avec moins, et puis l'amélioration des technologies, mais j'en ai peut-être déjà dit trop pour une introduction.
Non, je serais tenté de te laisser le micro. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des méthodes de travail du GIEC ? A priori, tu nous parles de systèmes complexes qui sont hautement non linéaires, pour lesquels on est bien incapable d'avoir la solution exacte. Je crois que le GIEC résonne à développer la notion de faisceau de scénario plausible, qui pour des amateurs de science-fiction résonne comme quelque chose d'assez spéculatif et qui, pour autant que je sache, est très original en science. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce lien entre la spéculation, la plausibilité et les prédictions du GIEC ?
Ouais, alors en fait, ce qu'il faut voir quand même, le GIEC, hein, c'est le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Les membres du GIEC, c'est les États. Hein, la mission du GIEC, c'est à intervalles réguliers de faire une évaluation de l'état des connaissances sur le changement climatique, à la fois sur la physique du climat et ce qu'on comprend des mécanismes, sur les impacts du changement climatique sur les écosystèmes et les sociétés humaines et les solutions d'adaptation à un climat qui a déjà changé et qui va continuer à changer. Et puis sur les solutions de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont donc la cause du problème. Le GIEC ne produit pas de science, hein, le GIEC évalue l'état des connaissances et quand on est scientifique, on peut candidater pour être auteur d'un rapport, donc c'est ce que j'ai fait il y a quelques années, et l'écriture d'un rapport, on est quelques centaines de scientifiques à lire tous les articles publiés sur les sujets dont on va être responsable, on s'organise en équipe, et puis d'en faire une synthèse, et puis il y a tout un travail en fait, de relecture des synthèses par d'autres experts, etc., etc. Maintenant, notre matériau de base, c'est les articles scientifiques qui sont publiés dans des journaux à comité de lecture scientifique. La science, c'est comme ça que ça se fait, hein, par des publications qui sont revues par les pairs. Et donc dans le volume sur lequel moi j'ai travaillé, par exemple, on a évalué plus de 18 000 articles scientifiques. Dans ces articles scientifiques-là, il y en a certains qui sont des articles qui font ce qu'on va appeler de la prospective, donc qui vont dessiner finalement des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et les sous-jacents à la fois technologiques, socio-économiques en dessous. Évaluer ce que ces scénarios d'émissions de gaz à effet de serre veulent dire en termes de changement climatique et d'impact du changement climatique. Et puis évaluer aussi finalement si on cherche toujours en prospective. Alors pour ça, on utilise des modèles numériques. Hein. On représente ce qu'on comprend des fonctionnements des systèmes qui sont des systèmes complexes parce que y a de l'humain là-dedans. Et donc, on représente ce qu'on en comprend avec humilité aussi parce qu'on ne comprend pas tout. Et donc, on prend en compte aussi les incertitudes qu'on peut avoir. Et puis, ce n'est pas des prédictions qu'on fait, c'est des projections. Et puis, en général, on fait plein de scénarios justement pour explorer un peu l'espace des possibles. Puis ce qu'on va particulièrement regarder, c'est des scénarios qui permettent de limiter l'augmentation de la température moyenne du globe et donc les impacts du changement climatique. Et qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, quelles sont les alternatives qu'il peut y avoir derrière en termes d'évolution socio-économique, en termes d'évolution des modes de vie, en termes d'évolution des technologies. Mais ce n'est jamais des prédictions. Hein. C'est vraiment une explore l'éventail des possibles. Et je pense qu'en ça, il y a vraiment des liens avec la science-fiction. Finalement, ce qu'on fait, c'est un peu de la science-fiction.
Fabien, toi, tu n'es pas dans l'exploration systématique de tous les scénarios. Tu écris des scénarios particuliers. Je ne vais pas te demander ton avis sur la définition précise, technique, scientifique.
Et de pourquoi pas de... Non.
Comment définis-tu l'économie circulaire ? Non, mais comment choisis-tu les scénarios sur lesquels tu choisis de travailler ? Est-ce que tu es à l'écoute de ce que disent les scientifiques ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? C'est le fait de pouvoir raconter une histoire ? Ce sont des contraintes narratives ? Ce sont des enjeux symboliques ? Qu'est-ce qui te fait choisir un scénario plutôt qu'un autre ?
Alors, plus ça va, plus c'est des enjeux symboliques, parce que pour rebondir sur ce qui a été dit... Alors, j'ai juste une question à me poser et à vous poser d'abord. J'ai quand même une vraie surprise à me dire qu'il y a autant de monde sur un sujet qui, au demeurant, n'est pas hyper excitant quand on lit le...
Ils sont là pour Céline et Yannick.
Ouais, parce que, oui, d'accord, c'est ça. Vous êtes venus pour des stars. Parce que sinon, au départ, je m'étais dit la ligne et le cercle, mais qui va venir, quoi ? Et en fait, vous êtes hyper chelou aux Utopiales, j'aime bien. Ou alors, c'était pour le côté écologie et économie circulaire. Bon, moi, c'est ça qui m'intéresse ici. Donc les thématiques autour de l'écologie me passionnent et m'inquiètent. Et j'ai l'impression que le rôle des auteurs et autrices, il est justement d'essayer d'inventer des nouvelles mythologies par rapport à des imaginaires qu'il faut déconstruire. Donc la vague caution qui explique que je suis là entre deux pointures et que je me sens tellement tout petit, c'est que je suis la personne qui réfléchit à des scénarios pas forcément crédibles, mais plutôt symboliques. Donc pour répondre à ta question, c'est ça qui m'intéresse au moment où je réfléchis à des grandes thématiques. Le problème, c'est qu'après écrire une histoire, ce n'est pas que des thématiques. Le risque, c'est d'écrire des pensums ou des choses qui sont là pour une forme de propagande intellectuelle, même si c'est pour des causes que j'estime justes. Pour moi, pour l'écologie, il serait temps de faire une forme de propagande. Mais enfin, on voit bien que si je fais un récit qui est juste une sorte de thèse pour démontrer ceci, cela, ce n'est pas une histoire. Donc, je dois avoir à la fois des enjeux symboliques et essayer d'y mettre de l'émotion qui se passe quelque chose au niveau des personnages, qu'on soit emporté par le récit, parce que sinon, autant lire une thèse, quoi. Et là où c'est hyper important, c'est pour ça que moi, je trouve passionnant justement ce mélange des genres, des utopiales, ce type de discussion, c'est que typiquement, on parle du cercle. C'est un des aspects que j'aimerais bien évoquer, c'est que c'est souvent associé à quelque chose de négatif, l'idée d'un retour en arrière, l'idée d'un truc qui tourne en rond, etc. Et pour moi, le GIEC, typiquement, me donne cette impression négative d'un rapport dont on nous parle tout le temps, et dont personne n'a rien à battre, quoi. Et c'est vraiment sidérant. À chaque fois, c'est comme si on lui disait « Demain, c'est la fin du monde. »« Oh mon Dieu !»« Ah, au fait, mon métro fait que ceci, cela. » Le lendemain, « C'est la fin du monde. »« C'est horrible !» Et puis tous les jours, c'est pareil. Et on s'habitue. Enfin, je pense que vous êtes un peu habitués aussi. Alors qu'en fait, on ne devrait pas s'habituer. Il y a une espèce d'inertie assez folle. Et je pense que cette inertie un peu folle, bon, elle a à voir à plein de raisons psychologiques, mais elle a à voir aussi à un imaginaire. Et cet imaginaire, pour moi, peut-être qu'on va l'aborder, je ne sais pas de quelle manière, quand même on pourrait, alors je vais y aller avec des gros sabots, des gros symboles, mais il y a quand même un imaginaire que j'estime viriliste, que j'associe un peu plus à la ligne droite tendue vers le haut. Parce qu'on parle de ligne, mais en vrai, la ligne, elle va vers le haut dans l'imaginaire collectif. C'est rarement la ligne qui va vers le bas. Quand on parle de la linéarité, le progrès, c'est plutôt ça va vers le haut, versus un imaginaire circulaire, plutôt féminin, genré féminin d'un côté, genré masculin de l'autre. Et je pense que cette partition des imaginaires est dangereuse et qu'il y a actuellement un excès de virilisme. Si on parlait de yin et yang, ce n'est pas pour dire qu'il y a le bien et le mal, mais qu'il y a un excès de yang, il y a un excès de virilisme. Et je pense que ce truc-là, il doit être déconstruit. Alors, attention, j'ai dit déconstruit, wokisme, etc. Bon, en même temps, ça va faire du bien aux utopias, là. On va dire que ça peut pas faire trop de mal non plus. Donc, je pense qu'il y a un truc à déconstruire autour de ça. Pour essayer de changer les choses de manière très, très, très fondamentale. Donc après, je laisse la parole parce qu'on va parler de plein de choses. Mais ça fait partie des thématiques qui, moi, qui sont hyper importantes. La difficulté étant, allez, je poursuis encore un tout petit peu, que l'attente des lecteurs et lectrices, comme on est des Occidentaux et comme on est imprégné de cette culture, c'est une attente quand même d'épopée. Or, l'épopée est très imprégnée de virilisme. C'est quand même un récit qui est très classique. Hein. C'est le héros, c'est plutôt d'ailleurs un héros, qu'une héroïne, mais enfin disons une personne, seule aussi, donc c'est vraiment l'idée d'une individualité qui va affronter un maximum de problèmes pour à la fin s'en sortir in extremis, voilà, en le disant très très vite, une dramaturgie super occidentale dont je suis acheteur, hein. Quand je vais voir un énorme blockbuster américain, je suis trop content de voir ça, c'est super, j'en prends plein la gueule, j'ai passé un bon moment, mais ça dit beaucoup de choses de ce qu'on pense être l'héroïsme, de ce qu'on pense être la victoire, de ce qu'on pense être justement une ascension de la difficulté, etc. Et on commence à avoir des contre-récits. Je peux citer deux contre-exemples. Il y en a un qui a été évoqué par François Julien, un sinologue philosophe que je vous conseille de lire, qui est passionnant parce qu'il a essayé de prendre un pas de côté par rapport à la pensée occidentale en disant comment je peux penser l'impensé, c'est-à-dire comment en tant qu'occidental je peux avoir un recul sur ma propre pensée, ça paraît impossible. C'est comme regarder l'arrière de sa tête, quoi. On n'y arrive pas. Et bien, il faut un miroir, il faut des miroirs. Il a étudié la Chine en se disant peut-être que c'est une des civilisations les plus éloignées de la nôtre. Et grâce à ça, il s'est dit, tiens, c'est marrant, la notion d'épopée n'est pas chinoise. Notre vision de l'héroïsme, c'est donc le grand héros, le grand général, grande bataille, des tas de morts, il l'emporte in extremis. Un bon général chinois de il y a très très longtemps, il y a des millions d'années, enfin milliers d'années, pardon, là je vais un tout petit peu loin quand même, c'est de dire, une guerre va arriver, j'envoie mes espions, je tue 2-3 personnes en loose day, la guerre est évitée, fin du récit. Mais du coup, nous, il n'y a pas d'histoire, en fait, à notre niveau, en caricaturant à fond. Deuxième pas de côté qui est proposé, que vous devez connaître ici, c'est celui de Ursula Le Guin, qui propose sa fameuse fiction panier, enfin, fameuse pour ceux qui connaissent. Grand silence, vous ne connaissez peut-être pas la fiction panier, alors je vais peut-être l'expliquer. Elle dit, pour le dire très vite, encore, imaginaire viriliste que je peux résumer avec le film 2001, l'Odyssée de l'espace, très connu, cette scène d'ouverture. Si vous en rappelez, on voit un singe qui, je crois, tue un autre singe avec un os. Donc il y a cette idée que l'os est à la fois une arme, mais aussi un outil. Puis il lance l'os dans le ciel et ça se transforme en vaisseau spatial par le biais d'une ellipse. C'est une des ellipses les plus connues de la science-fiction et du cinéma. C'est une très, très, très belle scène. J'adore Kubrick. Mais Le Guin va dire, bah oui, mais pourquoi on met toujours en avant justement, bah l'objet phallique, la ligne, l'os, l'outil, mais dans le sens qui tue, l'arme, etc. Alors qu'on pourrait tout à fait mettre en avant un panier. Pour récolter les myrtilles, le panier, c'est hyper pratique, alors qu'un os, bof, quoi. Mais elle dit, c'est pas le même récit. Le récit qui va avec le panier, en fait, elle le dit très bien dans un article, très facile à trouver en ligne. Vous mettez Ursula Le Guin, fiction panier, c'est pas long. Elle dit, en gros, allez raconter une cueillette aux myrtilles, quoi. En fait, il ne se passe pas grand-chose. C'était cool, il y avait des myrtilles, puis après, il y en avait moins. Puis à un moment donné, je suis allé au bord de la rivière parce que c'était cool d'être au bord de la rivière. Alors que Thor, qui va tuer un mammouth, il revient avec les deux jambes niquées, il fait genre, c'était très, très dur. C'est pas forcément plus efficace en termes de protéines. Enfin, si, un petit peu, mais un bon mélange de lentilles, en vrai, légumineuses, et puis des céréales, ça fait l'affaire. Mais ça fait, voilà, je vous dis légumineuse, céréales, déjà, c'est pas un récit, quoi. On s'emmerde un peu. Et ce que dit Le Guin de manière super pertinente, c'est ça, c'est qu'il y a le récit du mammouth, à la limite, c'est presque un ratage, quoi. Le mec revient en sang, il a un œil en moins, mais il raconte un truc. Et on est habitué à ce type de récit. Les blockbusters américains, c'est clairement pas de la cueillette qu'on nous raconte actuellement, quoi. Et donc, la difficulté que j'ai en tant que dramaturge, c'est comment gagner ma vie avec un récit que personne n'a envie de lire. Parce que si je fais genre les aventures de Thor, le cueilleur de myrtilles, et ben même vous qui êtes très ouvert d'esprit, vous n'allez pas m'acheter, quoi. Et moi, j'aime l'argent. Non, pardon, ça m'a échappé. Non, mais n'applaudissez pas. Quelle horreur. Vous avez applaudi la pire phrase de cette conférence. Non, je veux dire, j'ai envie de gagner ma vie, c'est légitime. Mais par contre, je veux, d'un point de vue strictement écologique, je voudrais amener un récit qui n'a rien à voir avec ça. Donc, après un très très long détour, mais voilà ce qui, moi, me donne envie d'écrire un récit. C'est que d'un côté, je veux promouvoir des valeurs qui ne sont pas mises en avant par notre société. On y reviendra sans doute sur un aspect symbolique. Et en même temps, parce que aussi c'est ce que j'aime lire, j'aime bien qu'il y ait du suspense, des obstacles, des héros qui s'en sortent par la force de leur courage. Tout ça étant très young. Voilà. Donc, comment on trouve une espèce de juste équilibre? Alors, mon idéal, j'y arrive pas toujours. Ça serait une sorte d'aïkido narratif qui consiste à dire vous allez en avoir pour votre argent, vous inquiétez pas, il y aura des tas de péripéties, c'est très young. Et quand même, une fois que les gens sont chopés par le truc, essayez de leur donner autre chose à gamberger. C'est pas évident, parce que si à la fin, il n'y a pas le grand combat qu'on attend, le grand climax qu'on attend, on est déçu. Alors que dans la vraie vie, là tout de suite, moi, il n'y a pas de fin du monde, je ne suis pas déçu du tout, je suis hyper soulagé. Donc on voit bien qu'il y a une incohérence complète entre ce qu'on vit tous et ce qu'on nous raconte dans les récits d'imaginaire. Mais en vrai, pour moi, même un récit qui est censé parler du réel est imaginaire.
Céline, je te voyais réagir aux provocations de Fabien.
Est-ce que
l'économie circulaire et le GIEC, c'est très pénible et pas drôle?
Oh, non, mais c'est intéressant. En fait, je sais qu'il y a des gens, des chercheurs pénibles et pas drôles, mais qui ont regardé d'un point de vue l'histoire que raconte le GIEC. Et il semblerait que dans cette histoire qu'on raconte, il n'y a pas de héros qui sauvent l'affaire. Et que c'est ça qui nous manque. Sans doute. Après, quand on réfléchit un petit peu aussi à ce que, ça renvoie à ce que c'est une personne individuelle ou est-ce que c'est fondamentalement un des collectifs qui agissent face à la menace du changement climatique. Ce que nous, on montre en tant que chercheurs, c'est que les gestes individuels, ils sont vertueux, indispensables, mais ils sont loin d'être suffisants et que c'est bien des transformations systémiques de nos façons de fonctionner, de nos infrastructures, de nos organisations et de nos normes sociales aussi. Enfin, et finalement, qu'est-ce qui est vu comme étant un progrès ou comme étant ce dont on va avoir envie. Ça aussi, c'est des choses qui sont en fait créées. Et en fait, il y a des chercheurs, alors moi pas, hein, mais des collègues qui sont plutôt des sociologues ou des anthropologues qui analysent ces choses-là et qui se retrouvent dans le rapport du GIEC. Mais c'est vrai que l'histoire générale qu'on peut en retenir, c'est quand même surtout on a un gros problème et c'est nous le problème, mais on a du mal alors que précisément il y a des solutions, hein, on a du mal à faire émerger ça dans ce que les médias par exemple retiennent des rapports du GIEC. Enfin, moi je me souviens bien quand le rapport du GIEC, il est celui auquel j'ai contribué, donc le troisième volet de la trilogie palpitante, qui est sorti en avril. Ce qui a beaucoup été repris, qui n'était pourtant pas dans le rapport, c'était « il nous reste 3 ans pour agir ». Avec le côté alors oui, on est dans une situation d'urgence, mais on n'est pas dans une situation où il y a un seuil en deçà duquel tout va bien, au-delà duquel rien ne va plus. Hein. On a déjà des impacts du changement climatique avec des effets négatifs sur les écosystèmes, sur la santé humaine, et puis qui posent aussi des vraies questions d'inégalité dans le monde, hein, qui exacerbent les inégalités. Mais donc on n'est pas dans une situation où on serait en deçà d'un seuil où tout irait encore bien, et puis c'est pas parce qu'on serait à 1,5 degré de réchauffement moyen du globe que en fait ce serait la fin du monde et il n'y aurait plus rien à faire. On est vraiment dans une situation où chaque tonne de gaz à effet de serre qu'on arrive à éviter, c'est des risques qui sont évités, c'est des dommages qui sont évités. Et puis, c'est pas on a 3 ans pour agir, en fait, c'est on a devant nous des décennies d'actions pour transformer nos sociétés, nos infrastructures, les façons dont on produit, dont on consomme, etc. Et je pense que là aussi, il y a... en tant que scientifique, on fait l'état des connaissances, mais il y a des relais à avoir. Les médias... joue un rôle important. C'est en train de bouger un petit peu, mais je pense qu'on pourrait encore plus pouvoir avoir un relais plus grand. Et je pense qu'effectivement, des fictions pourraient aussi s'emparer, et s'emparent, hein, de ces questions-là, et qu'il y a, des relais comme ça à construire.
Donc pour toi, les deux approches, les deux types de discours sont plus complémentaires qu'opposés ?
Oui.
Yannick, tu es aussi un enseignant.
Ouais.
Est-ce que tu utilises cette complémentarité des deux approches pour...
Alors, moi, je pense que les deux approches sont complètement complémentaires. Et justement, moi, je peux te donner plein d'idées de scénarios. Voilà. Alors déjà, je vais te dire, voilà, tu peux noter, je vais te dire les personnes que tu pourrais rencontrer. Quand on a ouvert notre master il y a 3 ans, j'ai un jeune qui arrive avec un skateboard sous les bras et qui me dit « Ah, un master en transition écologique, ça m'intéresse parce que moi, je viens de faire 3000 km en VTT dans toute l'Europe, dans 8 pays, pour parler d'écologie avec des copains. » Ensuite, on a un footballeur professionnel qui vient et qui nous dit « Moi, je m'y retrouve plus. » Et j'ai plus de sens dans ce que je fais et je voudrais faire quelque chose, par exemple, associer le nombre de buts avec des actions de financement d'associations pour des actions écologiques. Je pourrais te parler des thésards du CEA auxquels on a fait faire il y a quelques temps une fresque de l'économie circulaire et à qui on a dit comment vous placez, on l'a fait faire à 80 thésards, comment vous placez votre sujet de thèse à l'intérieur de la fresque, en gros, comment vous contribuez à la mise en œuvre concrète de cette économie circulaire. Et puis, je pourrais aussi te parler d'actions aussi des étudiants qui ont eu l'idée de se dire, finalement, sur Montpellier, il y a 10 000 étudiants qui partent chaque année, 10 000 qui arrivent, et qu'est-ce qu'on fait des meubles ? Et ils ont ouvert une ressourcerie étudiante qui est en service. Et ça, c'est des vrais héros, en fait, pour moi. Et je pense que c'est ça, quelque part, le lien qu'il faut faire. Parce que finalement, le GIEC, il travaille au niveau macro. Il nous alerte sur les solutions, mais après, l'écologie, la transition écologique, l'économie circulaire, le fait de créer une société plus durable, ça se joue dans les territoires. Et là, bonne nouvelle aussi, je pense, pour les scénarios, c'est que l'économie linéaire, c'est nul, en fait, parce qu'il n'y a qu'un seul territoire. Le terrain de jeu, il est que mondial. Alors que dans l'économie circulaire, chaque territoire est un terrain de jeu. Et ça, ça multiplie les scénarios de manière extraordinaire, en fait. Et en plus... Là où c'est encore plus complexe, c'est que non seulement il faut déployer une transition écologique et une économie circulaire, mais il faut aussi que les gens s'y retrouvent. Ça veut dire en gros qu'il faut que personne soit laissé au bord de la route. Il faut faire en sorte qu'on n'ait pas de société à deux niveaux, à plusieurs niveaux. Il ne faut pas qu'il y ait une écologie des villes, une écologie des campagnes, par exemple. Il faut faire en sorte que chaque territoire puisse se prendre en main et il faut des héros partout. Donc je me dis, il y a une potentialité à parler des transitions écologiques, d'économie circulaire de manière très enthousiaste. Et surtout, ça rejoint aussi la science-fiction. L'économie linéaire, elle est parfaitement décrite en science-fiction. Alors moi, je suis un très grand fan de Dune. Hein. Sur Dune, on a tout. Hein. On a la question de l'eau, on a la question des écosystèmes, on a la question de la géopolitique, la bataille entre les Harkonnen et les Atreides, avec l'empereur pour le contrôle de l'épice, et puis j'oublie la guilde. Donc on a tout ce qu'il faut pour décrire les dérives d'une économie linéaire. On a de l'économie circulaire aussi. J'en parlais tout à l'heure, le distill de Dune. Des Fremen, c'est de l'économie circulaire. Mais je pense qu'on manque vraiment d'ouvrages ou de propos qui racontent un petit peu la révolution qui se passe dans tous les territoires aujourd'hui, où énormément d'acteurs agissent. Et je me dis qu'on les met peut-être pas suffisamment en valeur parce que les médias sont souvent focalisés sur ce qui ne va pas. Et il le faut, bien sûr, parce que sinon on n'agit pas. Mais il y a énormément de choses qui se mettent en avant, qui se mettent en action. Et c'est ça qu'il faut aussi raconter et mettre en musique pour montrer que c'est possible.
Je précise quand même que je suis d'accord avec mes interlocuteurs. Je n'ai pas dit le GIEC est chiant. J'ai dit, est-ce que quiconque en a quoi que ce soit à faire des rapports du GIEC, ce qui n'est pas la même chose. Pas tout à fait. J'imagine très bien un producteur qui dirait « Il est pas mal ton sujet, Coco, mais mets-moi un héros. » Justement, typiquement, il y a un collectif. Le collectif, tu sais, on s'y perd. Mais c'est quoi l'objectif de ton personnage ? Enfin, voilà, on veut un récit simple, en fait. Je te rejoins aussi. tout à fait sur le fait qu'il y a des milliers de récits à raconter. La grande difficulté quand il s'agit de choses comme ça, c'est le récit, ce que je vais appeler le récit bien pensant. Moi, j'ai beaucoup vécu ça en tant qu'ancien catholique qui allait à la messe et qui m'ennuyait beaucoup. C'est qu'il y avait un récit qui était dit « et tu feras le bien » et ceci et cela. Et c'est assez vite ennuyeux, en fait, parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Il y a un truc un peu « bon, bah oui, il faut faire un... » Voyez ce que donnent les bandes dessinées des années 60 qui étaient bien pensantes, quoi. Don Bosco, compagnie, c'était pas... Eh bien, l'écologie, parfois... à ce type de récit. C'est-à-dire que si on est trop proche de ce qui est en train de se faire, il y a plein de gens qui vont dire oui, bon, j'en reviens au côté, c'est une thèse. Et le risque de ça, c'est qu'on prêche que les convertis. Bon, mon vrai gros problème, et je crois que c'est toi qui parlais d'envie, comment on crée l'envie avec quelque chose qui, de prime abord, ne crée pas l'envie. Enfin, un des gros problèmes psychologiques auxquels on est confronté, me semble-t-il, ou philosophique, dans cette linéarité, et c'était dit avec l'idée de l'obsolescence et choses comme ça, je vais faire un constat qui est un peu bêta, mais. Cette espèce de quête de nouveauté constante auquel on est soumis. Qu'est-ce qui fait que je suis constamment comme un con sur Instagram en train de me dire « Oh, le nouveau poste, oh, le nouveau poste, oh !» Parce qu'à chaque fois, il me faut un shoot. C'est assez bien analysé maintenant avec des histoires de circuits de récompense, choses comme ça. Je veux toujours un truc nouveau. Je veux acheter le dernier iPhone alors que le mien fonctionne très bien. Alors là, je ne vous parle pas de moi, parce que pour le coup, ça me gonfle vraiment. Par contre, voilà, j'essaie d'avoir des vieux smartphones. Ils sont plus compatibles avec les nouvelles applis. Donc, en plus, on nous pousse. On nous pousse clairement à acheter des choses plutôt nouvelles qui vont vers l'avenir, et la 5G, c'est vraiment meilleur, etc. Donc on est quand même un peu tous ensemble poussés à cette idée de nouveauté, 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 qui est tout à fait questionnable, même d'un point de vue psychologique. Je vais prendre un exemple à la con, mettez-vous devant Netflix au moment où vous avez toutes ces nouveautés, puis finalement, vous avez l'impression que c'est super, et puis en réalité, vous êtes perdu dans une masse de choses, donc ce n'est pas si satisfaisant que ça. Bon, je ferme la parenthèse. Inversement, créer l'envie avec un objet qui dure. Donc ok, j'ai un frigo qui va durer 50 ans. J'ai eu un petit moment d'excitation quand je l'ai acheté, et puis c'est le même frigo pendant 50 ans. Moi ça c'est une question, alors je vais changer complètement de sujet, mais c'est une question qui se pose beaucoup quand je fais les entretiens de l'herbier sauvage, c'est une autre de mes casquettes. J'écris pour les enfants beaucoup la série Seul, mais je fais aussi des entretiens sur la sexualité avec un projet qui s'appelle l'herbier sauvage. Donc là on touche à l'intime, mais cette question de la nouveauté versus la routine, elle est hyper présente dans plein de couples. Je caricature un peu, hein, mais... En gros, des gens viennent me voir, donc l'idée c'est des entretiens anonymes, les gens me parlent de sexualité, ce qu'ils ont envie de me dire, et quand même très très fréquemment, j'ai ce côté, genre, bah oui, j'ai envie d'avoir plus de partenaires, d'aller voir ailleurs, je suis avec ma femme, mon mari, mais au bout d'un moment, la routine, alors la peur de la routine, elle est énormissime, quoi. Parce que justement, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de désir, c'est comme ça que c'est présenté. Alors, je ne parle pas de ce sujet strict ici, mais pour moi, c'est un même imaginaire. Et là où il faudrait renverser la vapeur, ça serait arriver à dire, bon, et en quoi la routine est forcément un problème tout le temps? En quoi le fait d'avoir un même objet est si embêtant que ça? Et ça, pour moi, ça ouvre des perspectives théoriques, hein, parce que ça continue à être compliqué à raconter, qui sont des questions de comment créer du désir, de l'envie avec quelque chose qui est déjà là ou qui revient. Donc en fait, c'est je caricature, qui risque d'être la même chose, parce que je reviens sur le côté négatif. Dès qu'on parle de cercle, dans le langage populaire, on va dire « je suis comme un hamster dans sa roue », dans le sens « je revis la même situation ». Il y a cette idée du serpent qui se mord la queue, ça n'a aucun sens, c'est absurde. Le Monopoly, ben, prenez ça qui est au demeurant un jeu horrible. je vous engage à ne plus jamais jouer à ce truc, hein. C'est affreux, c'est comment écraser les autres et être le seul en situation de monopole. Enfin, c'est le truc le plus débile qu'on ait jamais créé. D'ailleurs, en plus, au départ, c'était un jeu qui était créé pour montrer les excès du monopole. Et puis un Américain très malin qui en a fait un jeu au premier degré, qui a fait fortune. Génial. Bon, retour à la case départ. Il y a cette notion quand même un peu de t'as perdu, retour à la case départ. Circularité, donc négatif, quoi. Routine du couple. Ah ouais, c'est toujours la même chose, bon, etc. Et là, une des pistes qui, moi, me semble super intéressante, alors c'est très très vaste une fois de plus, et une fois de plus, je peux vous en parler comme ça, mais c'est difficile d'en faire un récit, c'est comment on se contente de moins. La question de la sobriété était présente. Comment on donne quelque chose de l'ordre de l'envie dans la sobriété. Et pour moi, ça implique une espèce d'attention renouvelée à ce qui est déjà là ou à ce qui revient. C'est-à-dire une attention qui est beaucoup plus précise que l'attention superficielle qu'on va avoir avec le dernier post Instagram, le dernier iPhone, quelque chose qu'on consomme extrêmement vite. Mais comment se contenter de moins? Pour moi, ça passe par un retournement philosophique qui serait de dire, voilà, je crois connaître déjà tel sujet, je crois connaître les choses autour de moi, comment je m'y intéresse mieux? Petit aparté, c'est tout à fait humain de considérer le monde sans faire attention à chaque détail, à chaque instant. C'est, le cerveau est fait de telle manière qu'on fonctionne par symbole. On se dit, tiens, je sais qu'une table, c'est à peu près comme ça. Je sais qu'une personne qui me parle avec un badge ici, c'est à peu près un organisateur des Utopiales ou un invité. Mais on ne prête pas une réelle attention spécifique à chaque détail de tout. Ce qui est normal, on ne peut pas processer tout. Si, par exemple, je vous demande là tout de suite à quoi ressemble le fauteuil sur lequel vous êtes assis, est-ce que vous vous rappelez, ne serait-ce que de sa couleur, alors qu'on est en train de parler d'un truc qui vous touche les fesses? C'est quand même hyper intime. Eh bien, non, moi, je suis assis sur un truc qui est l'idée que je me fais d'un fauteuil, quoi. Et c'est normal, parce qu'en gros, vous savez que si vous asseyez dessus, en moyenne, ça se passe bien. Et vous n'avez pas à réfléchir à la couleur du fauteuil. J'ai autre chose à processer, on va dire. Alors même que tout un courant de réflexion que je vais très, très vite agglomérer avec ce qu'on appelle la pleine conscience, moi, c'est un sujet qui me passionne, nous amène à essayer de se dire, et si on prêtait une attention pleine et totale à chaque chose? Donc on flirte avec un truc qui peut être vite apparenté au New Age, et il se trouve que pour moi ça n'est pas du New Age, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ça. C'est comment s'intéresser à des choses qu'on croit connaître déjà. J'avais noté une phrase de, je crois que c'était Flaubert, qui disait, pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. Ben, le cercle permet ça, la récurrence permet ça, la routine permet ça. Après, comment on traduit ça en termes dramaturgiques? C'est autre chose, et je crois que tu voulais réagir.
Non, j'aimerais demander à la salle si quelqu'un est capable de me dire en 2 secondes la différence entre la dernière version d'un certain smartphone avec la version précédente. Voilà. Parce qu'en fait, on en est à 14, 15, 16, 17, bientôt 40, bientôt 50. Et c'est exactement ce que tu disais. On est en fait dans un système où il faut toujours de la nouveauté, il faut toujours plus. Et effectivement, c'est moins excitant. En fait, à premier abord, la sobriété, ou d'aller vers des sujets plus sobres. Mais on n'a jamais dit que ça... On a trop tendance à associer finalement, par exemple, la croissance. On parle tout le temps de la croissance sans se poser la question du contenu de la croissance. Là, je rejoins une question économique. Par exemple, une marée noire fait augmenter la croissance. Oui, une marée noire, il faut nettoyer les plages, il faut dépolluer, ça crée de l'emploi, ça crée de la croissance. Est-ce que ça contribue en quoi que ce soit au bonheur humain? La réponse est non. Donc, c'est cette notion et cette définition de qu'est-ce qui est le plus et qu'est-ce qui est le moins qui est importante. Et pour ça, il faut réapprendre à compter, en fait. Il faut réapprendre à compter. C'est quoi, finalement, une vie réussie? C'est quoi le bonheur humain? On a réussi avec l'économie linéaire, puis surtout avec l'appui massif du marketing, à considérer qu'en fait, si on répondait à tous les étages de la pyramide de Maslow avec le maximum de biens matériels, c'était parfait. Or, la pyramide de Maslow, par exemple, le besoin d'accomplissement, le besoin de sécurité, c'est bien autre chose que simplement l'accumulation de biens matériels. Et il y a aussi aujourd'hui toute cette approche-là qu'il faut arriver à effectivement déconstruire et à repenser. Et la seule façon de repenser, c'est que justement, au lieu d'être dans une vision économique construite de manière linéaire au niveau mondial, avec finalement des acteurs, les bureaux marketing qui décident pour l'ensemble de la population, qu'est-ce qui doit être le bien qu'on va avoir demain par rapport à tel autre, ben, il faut réimpliquer massivement les citoyens sur les territoires. Et c'est en ça qu'on peut retrouver finalement une façon de faire que le moins redevienne un plus. Parce que quand on contribue à quelque chose, quand on le construit progressivement, quand on se rassemble sur un territoire, quand on y réfléchit, ça a beaucoup plus de sens. Le bonheur vient aussi du maximum de sens qu'on peut donner aux choses que l'on fait, je pense.
Alors, je suis hyper d'accord. Ce qui est compliqué, on va prendre l'exemple politique, justement, typiquement. Et ça rejoint ce que tu disais sur il faut un héros, il faut un personnage central. Par exemple, dans le GIEC, est-ce qu'il y a une personne qui a fait une percée? Ou est-ce que, dernières élections municipales, je me retrouve sur une liste électorale d'extrême droite. Non, je plaisante. C'est pour voir si vous suiviez quand même. Bon, alors on va dire une liste hyper consensuelle, écolo de gauche, voilà, bon, désolé. Qui justement essaie de vendre un récit qui est de dire, et si on faisait vraiment une politique où on discute ensemble des sujets qu'on voudrait aborder et qui parle d'intelligence collective réelle et pas d'une apparence d'intelligence collective, parce qu'on sait très bien qu'en politique, il peut y avoir des réunions où on dit, qu'est-ce que vous pensez de l'autoroute A6? Et à la fin, on sait très bien que la décision avait été prise avant la réunion. Donc on est d'accord que ça, ce n'est pas du tout la politique dont je parle. Je parle vraiment de l'idée de, on va essayer de construire ensemble, avec tous les outils de l'intelligence collective, qui au demeurant est vraiment un outil génial, qui est extrêmement employé, par exemple au Québec, mais assez peu en France, enfin, quoi qu'il y a des choses qui se font, y compris à Nantes. Donc la difficulté de cette intelligence collective, c'est qu'elle demande beaucoup plus de réunions en amont. Donc c'est assez lent au début. Par contre, quand on s'est mis d'accord, ça dure beaucoup plus longtemps. Donc moi, je me dis super, hyper naïf, première fois que je m'inscris sur une liste électorale. Donc j'étais là toute fin quand même pour ne pas avoir de responsabilité si jamais on gagnait. Ouh là là, non, il ne s'agit quand même pas que je m'implique trop, parce que je suis auteur de science-fiction. Mais ce qui nous a été renvoyé, c'est quand même que les gens, ils trouvaient ça super, mais au moment où on leur demande de vraiment venir aux réunions, de vraiment bouger, de ceci, cela, il y a une sorte de réticence qui est quand même très humaine. On est pris par nos métiers, par nos
par Netflix.
Par Netflix. Et puis aussi, un autre truc qui nous était opposé, c'est, et en cas de crise, qui décide? Ah, il est bien beau, votre truc de collectif, là, mais qui décide? Donc, un peu l'idée de l'homme providentiel, la femme providentielle, même à l'échelle municipale. Je ne vous cache pas qu'on s'est pris une grosse tôle. C'est très humiliant. Mais bon, c'est la vie. Et ça recoupe ce qui se passe en France au niveau politique. Enfin, il y a toujours ce côté « je t'aime moi non plus » avec la Ve République, du style « marre de l'homme providentiel », n'empêche que c'est l'élection présidentielle pour laquelle on va tous se bouger, en disant « là, ça va changer », tout en sachant que ça ne va pas changer. En fait, on le sait, on ne le sait pas, on a envie d'y croire, mais finalement, on finit par voter contre. Mais c'est un truc très bizarre, on attend quand même plus ou moins un héros ou une héroïne. Comme elle ne sera pas à la hauteur, on va le défoncer derrière, parce qu'en réalité, c'est quand même quelque chose qui est collectif. C'est assez compliqué d'arriver à dire à chacun, on est responsable de ce qui est en train de se passer. On est aussi responsable à titre individuel.
Ouais, là-dessus, moi, je voudrais amener quand même une expérience qui a été menée en France de démocratie participative, alors qui n'est pas allée complètement jusqu'au bout, mais la Convention citoyenne sur le climat. C'est quand même une expérience où il y a 150 personnes qui n'étaient pas forcément intéressées, experts ou pas du tout d'ailleurs sur le sujet à la base, qui ont accepté d'y passer vraiment du temps, hein, et qui se sont pris le sujet à bras le corps, qui se sont formés, qui ont vraiment mis de l'énergie là-dedans, qui n'étaient pas d'accord entre eux sur les mesures et qui ont fini par sortir quelque chose. Alors on peut discuter, est-ce que c'était ces mesures-là, etc. Est-ce que ça allait assez loin? Est-ce que c'était à la hauteur, etc. Mais disons qu'il y a quand même eu là quelque chose qui montrait que un collectif, a priori, bon, ils ont été tirés au sort, ils ont sans doute, si ceux qui ont dit oui avaient un petit peu un intérêt, il y a un petit biais, mais quand même, c'était vraiment loin d'être des gens qui étaient écolos à la base, ou en tout cas pas tous, et ils se sont formés devant l'ampleur du sujet, et ils ont vraiment travaillé pour proposer des choses qui ne sont pas allés au bout. Je pense que des conventions comme ça, il y en a qui se font à des échelles beaucoup plus locales. Je pense que là, il y a des choses qui peuvent se passer véritablement de construire ensemble. Et après, je voudrais revenir sur cette histoire que on s'est tourné en rond, etc. Enfin, en fait, on est quand même dans une situation où continuer la routine de comment on fait, ça va pas marcher, quoi. Y a quelque chose qui peut, enfin, il s'agit de tout réinventer, quoi, de réinventer nos villes, de réinventer les façons dont on se déplace, de réinventer comment on se loge, de réinventer ce qu'on mange. Et dans ça, c'est sortir de la routine, et ça peut être assez enthousiasmant quand même.
On est d'accord. Oui, heureusement que, mais il faut arriver à transmettre cet enthousiasme que nous avons ici, tous les trois, c'est énorme. Peut-être une partie de vous aussi.
J'ai des regrets à interrompre cette conversation effectivement enthousiasmante et fascinante, mais j'aimerais laisser un peu de temps pour deux ou trois questions dans la salle. Si on peut rallumer la. Merci. Est-ce que quelqu'un veut. Oui, je vois une.
Vous êtes resté en plus, c'est fou.
Oui, ils sont toujours là.
Oui, bonjour. On sait très bien que la croissance n'est plus du tout le bon indicateur pour l'économie. Je voulais savoir si, au niveau du GIEC, vous aviez réfléchi à d'autres types d'indicateurs, s'il y avait des frémissements dans le monde pour, au niveau politique pour se baser sur d'autres indicateurs. Dans le film Animal, par exemple, on entendait un économiste dont je ne me souviens plus le nom, mais qui parlait du niveau de santé des personnes. Voilà, c'est ça ma question. Merci.
J'imagine que ça m'est adressé. Alors oui, un indicateur. Enfin, ça dépend de la croissance de quoi on parle. La croissance des émissions de gaz à effet de serre, non. La croissance des inégalités, probablement, c'est pas quelque chose qu'on veut. La croissance du bien-être, peut-être. Ce qu'on mesure aujourd'hui, le produit intérieur brut, et quand ce chose augmente, on dit qu'il y a de la croissance. Effectivement, hein, quand il y a une marée noire ou un embouteillage, ça augmente la croissance parce qu'on brûle. Enfin bon, bref. Et c'est un indicateur qui prend pas en compte les inégalités du tout. C'est un indicateur qui prend pas en compte l'état de l'environnement du tout. Et c'est un indicateur qui ne prend pas en compte l'état de la santé humaine, santé mentale et santé physique. Donc effectivement, c'est un indicateur qui, pour le 21e siècle, va falloir qu'on arrête. C'est un indicateur qui peut être intéressant néanmoins. Pourquoi des États le regardent? C'est quand même parce que le produit intérieur brut, c'est la base de l'assiette fiscale et c'est ce avec quoi on peut financer les services publics qui sont des choses et les communs qui sont des choses qu'on peut avoir envie de préserver, l'accès à l'éducation, la santé, etc. Il y a des travaux d'économistes pour proposer des indicateurs alternatifs. Ma conviction, elle est qu'un on va pas avoir un indicateur agrégé qui va pouvoir nous permettre de tout résumer en une seule chose, mais qu'on a de plus en plus besoin finalement d'avoir des espèces de tableaux de bord avec différents indicateurs qui vont aller regarder effectivement la santé, qui vont aller regarder l'état de l'environnement, qui vont aller regarder les inégalités, et il y en a d'autres. Alors il y a un petit peu à l'échelle mondiale des tentatives avec les ODD, les objectifs de développement durable, où il y a 17 grands objectifs. L'éradication de la pauvreté, l'éradication de la faim, l'accès à l'éducation, la réduction des inégalités, etc. Et puis derrière, il y a 200 et quelques indicateurs. Je pense que là, c'est l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on finit par avoir trop d'informations et en fait, on ne sait plus bien où sont vraiment les arbitrages, etc. Mais de plus en plus, et y compris en France, de plus en plus quand même, dans les politiques publiques, on regarde des tableaux d'indicateurs et pas seulement un seul. Et l'économiste en question, c'est Éloi Laurent dans le film Animal.
Juste un complément, je pense que justement, si on veut réfléchir sur des indicateurs alternatifs, il ne faut pas faire qu'avec des économistes. Il faut intégrer des acteurs de toutes les sciences et des citoyens aussi. Parce que la complexité aujourd'hui, elle impose de prendre en compte dans ce qu'on considère comme une création de richesse, par exemple, une vraie richesse, des indicateurs qu'on ne peut pas forcément agréger sous forme de chiffres. Le travail des abeilles, par exemple, ce n'est pas dans le PIB. S'il n'y a plus d'abeilles, on meurt. Donc, donc on a besoin d'intégrer des acteurs pluridisciplinaires pour réfléchir ensemble à ce qui est l'indicateur qu'on se donne sur, et peut-être c'est différent sur les territoires.
Et avec des biais aussi, peut-être vous avez vu ce documentaire justement consacré à tout ce qui est méditation, pleine conscience, bien-être personnel, etc. Il y a des excès éventuels qui sont que, par exemple, les hommes politiques qui se sont emparés le plus de la question du bonheur à intégrer dans un nouvel indicateur, c'était des hommes politiques libéraux. Paradoxalement, parce que quelque part, il y avait une sorte de translation de la responsabilité. Du style, si vous n'allez pas bien, c'est un peu votre faute. Donc, votre bonheur dépend de vous. Le risque de tout ce qui est développement personnel, quand ça va trop loin, je pense que c'est un outil extrêmement important, mais qui peut être mal utilisé, c'est quand on reporte sur chaque personne la stricte responsabilité de ce qui est en train de lui arriver. Alors qu'en réalité, on est responsable, mais pas que. C'est vrai pour le climat, on est responsable à titre individuel, mais bien entendu, il faut que les grandes entreprises se bougent les fesses et les politiques. Donc le problème de l'indicateur, il est toujours extrêmement complexe.
Une question.
Oui, bonsoir. Je tenais à partager un petit élément de réponse que j'avais à propos de la question, mais comment donner aux gens l'envie d'être sobre et de s'engager dans une sobriété où on pourrait dire, mais regarde ce nouveau Netflix, regarde ce nouveau blockbuster qui a l'air phénoménal. Et le petit élément de réponse que j'avais moi, c'est quand on m'a dit un jour, Ellie, je ne comprends pas les gens, un camarade de classe m'a dit ça un jour, je ne comprends pas les gens qui se contentent de peu, je ne comprends pas comment on peut vivre de ça. Pour moi, une réussite, c'est gagner beaucoup d'argent, faire des voyages, etc. Et moi, ce que j'ai eu envie de répondre à ce moment-là, je n'ai pas eu la réponse tout de suite, c'était que, en fait, si tu as besoin d'avoir le dernier iPhone, d'acheter un nouveau téléphone, une nouvelle chaîne Wi-Fi pour avoir un petit peu de bonheur, d'acheter un nouveau jeu vidéo ou de faire du shopping pour avoir des nouveaux beaux vêtements, si c'est ça la source de ton bonheur, au fond, est-ce qu'il y a un problème avec toi, la façon dont tu obtiens ton bonheur? Et donc ça ne répond pas du tout à la totalité de la question. Mais je pense que ça, pour moi, ça révèle le fait qu'on vit dans une société où le bonheur vient beaucoup d'une surstimulation quelque part. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis sur YouTube ou Netflix, encore une fois, je regarde beaucoup de contenu qui va très vite et j'ai des shots de dopamine qui viennent et je suis très stimulé et ça donne beaucoup de plaisir. Mais quelque part, il y a aussi une forme de bonheur que j'ai redécouvert après mon adolescence qui était le simple fait de se poser. Et de lire un livre, ou alors de penser à rien en faisant du sport, par exemple. Et donc là, je pense qu'il faut peut-être repenser le bonheur différemment et prendre plus son temps pour ça. Voilà.
Alors, je suis très d'accord. La difficulté à laquelle on est confronté, tu l'as dit avec les shoots de dopamine, c'est qu'en fait, on est addict. On est dans la même situation qu'un alcoolique ou toute personne, enfin, ou un workaholic comme moi, ou qui a un shoot énorme, extrêmement fort avec une drogue, on va le dire vite, parce qu'il y a plein d'addictions, mais on va parler des drogues pour aller plus vite. Un shoot d'héroïne, rien n'est comparable visiblement. C'est une sorte de super orgasme, si on en croit Trainspotting, versus un week-end à la campagne, qui sur le papier a l'air vraiment super morne, alors qu'en réalité, les anciens addicts savent qu'une fois le sevrage passé, il y a quelque chose de beaucoup plus satisfaisant dans la durée à quelque chose de presque fade. Alors je reviens encore à ce que dit François Julien quand il parle de la Chine. Le terme de fadeur en Chine n'est pas péjoratif. C'est l'idée de quelque chose qui a l'orée de pouvoir exister, mais qui n'existe pas encore complètement, donc qui a encore plein de promesses, au lieu d'un goût complètement affirmé, mais qui est peut-être même déjà dans l'écœurement. Sauf que là, il va falloir il nous faut un sevrage. Je pense qu'on est polyaddict. On est addict à la nouveauté, à la technologie, on est addict au pétrole, aux énergies carbonées, mais puissance 1000. Je pense qu'on est vraiment des junkies de ça, parce que toute notre économie est basée sur ces énergies. Donc la difficulté, elle est celle d'un drogué qui se dit « je sais bien que ça ne me fait pas que du bien, mais comment j'arrête ?» Et c'est là qu'il y a plein... Je pense que ça sera polyfactoriel, hein, la réponse. C'est les récits, c'est les rapports quand même, parce que Je me moque de notre inertie, mais ils sont nécessaires, les rapports du GIEC. Et un jour, il y a le rapport de trop qui nous fait réagir chacun à notre niveau. Il y en a, c'était il y a 5 ans, il y en a, ce sera dans 5 ans. Bon, chacun a son niveau de tolérance. Et c'est ça, plus ça, qui fait qu'un jour, on arrête la cam et qu'on se dit, en fait, c'est vrai que je peux me contenter de très, très peu. Parce que ça, c'est la bonne nouvelle. En vrai, on peut se contenter de très, très peu. Je suis vraiment persuadé de ça. Mais faut-il être prêt à lâcher sa cam?
Peut-être, ça marche. On peut juste vous confirmer qu'il y a sans doute un certain nombre d'hommes ici qui sont assez satisfaits de la routine avec leur femme. Mais ce n'était pas pour ça que je prenais le micro. Je voulais juste savoir si, dans le rapport du GIEC, est-ce que vous intégrez... on a vu que la crise Covid avait un peu tassé les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on annonce une multiplication d'événements extrêmes... Alors, il paraît que la chaleur, c'est catastrophique parce que ça augmente le nombre de climatiseurs. Mais est-ce que, quand même, on ne peut pas penser que sur certains événements, s'il y a des tornades sur les mines de charbon, ça va les bloquer pendant un certain nombre de mois, peut-être. Vous voyez, est-ce que ça, c'est un peu réfléchi ou pas du tout, ces événements qui pourraient d'eux-mêmes, en fait, aller dans le bon sens, quoi.
Alors, juste pour revenir sur... d'une part, les articles scientifiques qui ont traité de ce qui s'est passé pendant l'épisode Covid, ils n'étaient pas encore publiés quand le rapport a été fait, donc on n'a pas pu les intégrer. Ce qu'on a vu sur les émissions de CO2, c'est une petite baisse, En France, à peu près 10% de baisse des émissions parce qu'il y avait certaines activités qui étaient à l'arrêt, et en particulier les transports, mais c'est une baisse de 10% seulement. C'est quand même des émissions, et donc c'est quand même une concentration qui a continué à augmenter. L'enjeu, je le répète, c'est atteindre zéro émission nette de CO2. C'est faramineux, vraiment. On ne va pas y arriver par hasard. Ça, c'est sûr. Après qu'il y ait des événements, et on le voit quand même, parce que là, on a vécu un été avec une succession de canicules, avec des sécheresses extrêmement longues, y compris dans ma Bretagne, où les agriculteurs, franchement, c'est vraiment compliqué, quoi. Et donc, il y a des prises de conscience, et il y a des gens qui travaille sur comment finalement il peut y avoir des effets boule de neige aussi comme ça à partir de prise de conscience, et on sait très bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir 100% des gens qui sont convaincus pour bouger un collectif et que, enfin, etc. Mais on va quand même pas y arriver par hasard. C'est pas que des questions individuelles, c'est vraiment des questions de transformation systémique derrière ça. C'est des questions collectives, politiques, à tous les échelons de gouvernance. Je sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais il faut vraiment avoir en tête, c'est pas diminuer un petit peu les émissions dont on a besoin, c'est les amener à zéro. C'est une révolution de tout ce qu'on fait, quoi, vraiment.
On aurait envie de rester une heure de plus avec vous trois, et je suis sûr qu'il y a encore des tas de questions à la salle auxquelles on ne pourra pas répondre, mais malheureusement on arrive au bout de notre créneau. Donc je voudrais vous remercier tous d'être venus et remercier nos trois orateurs.